l'émission Club
Bye
avec
Monsieur Remake,
Monsieur Coup de Gueule,
Monsieur Manga,
Madame Bye,
Madame Coup de Cœur,
présentateur,
les Sœurs Disney,
Histoire Comics et Horreur,
Monsieur Oscar.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 91 FM+, dans l'émission des jeunes collégiens du Collège du Jeu de Maille, Clap Maille. Donc aujourd'hui c'est la dernière émission de l'année, c'est celle du mois de juin. Donc on commencera par Monsieur Comics Horreur Raphaël qui va nous parler de Avengers Infinity War. Ensuite ce sera au tour de Tishana, Mademoiselle Science Fiction qui va nous parler du célèbre film E.T. On enchaînera ensuite avec Jeanne, Madame Coup de Cœur qui va nous parler du film Sweeney Todd, encore avec Johnny Depp. Et pour finir, on enchaînera sur la critique de Yann sur la forme de l'eau. Donc on commence tout de suite avec Raphaël, dont on écoute tout de suite la bande-annonce.
Depuis que je le connais, il n'a jamais eu qu'un seul but. Exterminer la moitié de l'univers. S'il s'empare de toutes les pierres d'infinité, il pourra le faire d'un simple claquement de doigts. Comme ça.
Rappelez-moi comment il s'appelle.
Thanos.
Nous avons un avantage. Il va venir à nous. Nous avons ce que veut Thanos, et nous l'utiliserons.
Bon, parlons un peu de votre plan. Je le trouve excellent, à ceci près qu'il est nul. Alors laissez-moi faire le plan, et comme ça, il sera beaucoup mieux. Bravo.
La fin est proche. Quand j'en aurai terminé, la moitié de l'humanité aura la vie sauve.
Donc, bonjour Raphaël.
Salut.
Donc, parle-nous un peu de ce nouvel épisode de la saga Avengers.
Alors, cet Avengers-là est un peu teasé depuis le début de la création du MCU. Je sais plus depuis quand il a été teasé, mais je pense que depuis le premier Captain America. Donc ça remonte à très longtemps. Et du coup, ça fait un peu 10 ans qu'on l'attendait. Et donc 10 ans d'attente, et j'ai été déçu.
Pourquoi ?
En fait, j'étais déçu, et en même temps, c'était logique. Dis-toi bien, tous les héros du MCU qui ont été présentés depuis 10 ans, rassemblés dans un seul film de 2h50.
Sur le papier, ça paraît génial. Avoir plein de super-héros dans un seul film.
Ouais, c'est incroyable. Mais scénaristiquement,
c'est
un bordel.
Donc, est-ce que c'est mal fait, du coup, dans le film ? Est-ce que tous les super-héros sont mal amenés ?
Ils sont pas tous mal amenés, mais il y en a qui sortent un peu de nulle part. Genre Captain America qui est à Londres, comme ça.
D'accord, donc le film se déroule à Londres ?
Non. En fait, le film se déroule en, je dirais, trois parties distinctes. Une dans l'espace, une sur une Wakanda, et une sur Titan.
Et qu'est-ce que c'est que Titan ?
Titan, c'est la planète de Thanos, en fait, qui est morte.
D'accord, donc ça se passe aussi sur une planète morte. Donc, parle-nous un peu de l'histoire globale du film, parce que là, je suis un peu perdu.
Alors, je vais te faire le résumé d'Allociné, parce que je suis pas fort pour ça. Alors que les Avengers et leurs alliés ont continué de protéger le monde face à des menaces bien trop grandes pour être combattues par un héros seul, un nouveau danger est venu de l'espace, Thanos. Il a pour objectif de recueillir les 6 pierres d'infinité pour son but final, anéantir la moitié de l'humanité pour que les autres puissent prospérer. C'est donc le combat ultime contre les super-héros le plus dangereux qu'ils aient à affronter et qui impliquera tous les héros déjà connus.
Donc ces 6 pierres d'infinité, qu'est-ce que ça lui confère comme pouvoir ?
Le pouvoir absolu, on va dire. En fait, les pierres d'infinité, c'est des fragments de... C'est genre, en gros, quand à la création de l'univers, il y a eu 6 pierres d'infinité, donc ça, qui représentent chacun un pouvoir particulier.
Donc c'est un film qui est sorti récemment, c'est donc peu une sorte d'aboutissement dans le Marvel Cinematic Universe. Et donc, quel film t'as préféré, toi, par exemple, dans tous ceux qui sont sortis dernièrement ?
Dernièrement, Black Panther et Doctor Strange. Personnellement.
Et donc, est-ce que t'as retrouvé ce que t'as senti pendant leurs deux films respectifs, pendant Avengers Infinity War, ou ils sont un peu mis de côté?
Bah, en fait, ils sont bien dosés. C'est-à-dire que Black Panther, on a fait tout un film pour présenter Wakanda et tout ça, parce qu'il devait le faire et parce que Wakanda devait être utile. Enfin, devait être utile, c'est que, c'est-à-dire dans le sens, il fallait le présenter, il fallait amener toute la technologie et tout autour pour pas qu'on ait à tout expliquer pendant le film. Sinon, ça serait un bordel pas possible.
Et est-ce qu'il y a certains héros dont on fait un peu une overdose, c'est-à-dire on nous en parle et on les met constamment devant l'écran en avant?
Non. Enfin, disons qu'ils ont tout, ils ont chacun une mission en fait. Par exemple, Thor. Comment c'est. D'ailleurs, petit conseil avant d'aller voir Avengers Infinity War, regardez Thor Ragnarok et Captain America Civil War. C'est un assez, enfin, c'est les deux films les plus importants, je trouve.
Donc, du coup, dans Civil War, on a un peu la division des Avengers avec le côté Iron Man et le côté Captain America.
C'est
Là,
ça.
est-ce que c'est un rassemblement?
Alors, il n'y a pas de rassemblement général, en tout cas. Pas pour le moment. Peut-être dans le 2, oui. Mais pour l'instant, ils sont toujours assez séparés. Comment dire ça? Mais disons que scénaristiquement, c'est un bordel, mais en même temps, je vois pas comment on aurait pu faire mieux, en fait. Tu vois? C'est-à-dire que on peut reprocher que certains ont trois lignes de dialogue. Mais en même temps, c'est parce qu'ils sont pas vraiment utiles et parce qu'il y a d'autres personnages qui sont plus utiles. Par exemple, je prends par exemple Natacha, la veuve noire, qui déjà est devenue blonde pour on sait pas, qui a clairement 10-15 lignes de dialogue. Hein. Elle est juste là.
Et quel super-héros on retrouve dans ce film au total?
Au total, je sais pas compter, hein, mais tu prends la liste de tous les super-héros qui sont apparus depuis 10 ans et tu les fourres dans Avengers.
Petite précision,
Merci Yann.
52 donc. Et
62, mais c'est pas grave.
tu nous
62?
disais tout à l'heure que tu avais été un peu déçu, par quoi exactement?
Ben, en fait, il y avait non, dans tous les films, quasiment, certains ont, on va dire, l'option pierre d'infinité. En gros, à la fin, on sait où se situe la pierre d'infinité. Par exemple, Doctor Strange, lui, la pierre du temps. Et on sait où elle est. Elle est avec Doctor Strange et elle a été mise en place dans le film Doctor Strange. Il y avait une pierre qui restait, c'était la pierre de l'âme. Et il y avait beaucoup de théories. Sur où elle pouvait se trouver ou comment Thanos allait la voir. Et clairement, j'ai été déçu parce qu'elle se trouve dans un endroit un peu pété, sur une vieille planète qu'on connaît pas, dont on sait pas, avec je dirais pas le nom, mais un fantôme du passé très lointain. Et la méthode pour la voir, c'est banal.
Et il me semble que le super-héros Vision en a une sur le front.
Oui.
D'accord. Et
Si j'en
est-ce
dis
que.
plus, je spoil.
Ah, est-ce qu'il est dans le film?
Bah oui, il est dans le film.
Oui, tout le monde est dans le film.
Quasiment tout le monde est dans le film,
Parce
avec
que
plus.
50, 52, c'est énorme quand même.
Bah 52, disons qu'il y en a allez, une quinzaine qui est utile, donc qui est bien utilisé.
Et du coup, est-ce que tu as retenu quelque chose de positif en particulier sur le film?
Ça, c'est mon côté fanatique d'Iron Man, mais l'armure est trop stylée.
Il y a une nouvelle armure.
Ouais, comme dans tous les films d'ailleurs.
Et donc, est-ce que on met le super-héros Spider-Man en avant? C'est juste une question.
Oui, justement, il est très classe dans ce film, il est assez utile. Mais pour ceux qui n'ont pas vu Spider-Man Homecoming, à la fin, il refuse d'être un Avengers. À la fin, il refuse d'être un Avengers. Et là, dans le film, bon, je pense que c'est parce qu'ils en ont besoin et du coup, il est content et il fait, ouais, je suis utile et tout ça. Mais de base, il avait refusé.
C'est vrai.
Il avait refusé. Et donc, ce retournement de situation en mode, bon, bah, t'es un Avenger, ça me dit lol. Tu vois, ça m'a pas vraiment plu, tu
Est-ce
vois.
que t'avais aimé le film Spider-Man Homecoming?
Moi, j'ai beaucoup aimé et je le trouvais très sympa. Sympa, mais sans plus, hein, mais sympa quand
Et est-ce que
même.
t'as quelque chose du coup à rajouter en dernier sur ce film, sur...
Thanos, c'est le méchant le plus stylé de tout l'univers Marvel confondu, il n'y a pas de débat.
Donc, dans le premier Avengers, pour rappel, c'était sorte d'extraterrestre un peu chelou.
Le premier Avenger, c'était Loki qui a amené, les guerriers de Thanos. Enfin, en gros, c'était une première tentative d'invasion de Thanos, tu vois. Le deuxième, c'était Ultron. Avengers 2, c'était Ultron. Qui voulait détruire la Terre. Sympa, le gars. Le troisième, justement, c'est Thanos.
Donc, Thanos dépasse tout le... la badassitude des autres méchants.
En même temps, c'est ce que... dire que le film est en fait centré sur Thanos. Enfin, centré, non. Mais dire, comme on l'a instauré en mode c'est méchant le plus charismatique de tout l'univers Marvel, il fallait bien le faire. Et clairement, ils l'ont bien fait. Ils l'ont bien fait, toute sa psychologie autour, toute sa façon de penser. Et son plan qui est au final pas si débile que ça, mais lol, on tue pas la moitié de l'univers, quoi.
D'accord. Merci Raphaël donc pour ta critique sur ce film. Yann, tu souhaites intervenir ?
Non.
Si, une dernière chose. C'est pas la peine de rester à la fin post-générique, hein, clairement.
Ah, c'est juste pour...
C'est juste pour annoncer Captain Marvel, et ça on le savait depuis 2-3 ans.
Ouais. Ok. Donc, on enchaîne tout de suite avec Tishana, qui va donc nous parler du célèbre film de science-fiction E.T., dont on va écouter tout de suite la bande-annonce.
Dans ce quartier paisible, dans cette rue tranquille, un mystère se révèle. Et une aventure commence.
Je veux le garder avec moi.
Le téléphone
à sa maison.
Donc Tishana, tu vas nous parler aujourd'hui de E.T.
Oui, d'abord ce film j'ai choisi parce que j'aimais bien Steven Spielberg, j'ai toujours aimé ses films, mais je ne savais pas choisir lequel parce qu'il a fait au moins 3 films de science-fiction, alors j'ai pensé à un truc un peu animé, E.T.
Et quels sont les autres films de Spielberg que t'aimes bien ?
Il y en a eu beaucoup, alors...
J'arrive pas à
décider. Voilà, c'est ça.
Donc fais-nous un petit rappel, vite fait, donc, de l'histoire de ce film.
Au début, c'est une famille toute simple qui vit à la campagne un peu. Un jour, un petit garçon, il voulait sortir sans permission de chez lui, il l'a fait. Et il voit qu'une soucoupe volante s'écrase pas très loin de chez lui. Et du coup, il a eu peur, il ne savait pas quoi faire, il a hésité d'aller vers la soucoupe volante. Il a vu juste la soucoupe volante, mais l'extraterrestre avait disparu. Et le lendemain, il essaye de chercher encore pour voir s'il était là, mais il y avait la brigade scientifique, oui, c'est ça, avec... comment on appelle les personnes qui... Ouais, les gens qui viennent de la NASA aussi.
Ok, donc ce film, il est super connu, donc il est apprécié par beaucoup de monde. Qu'est-ce qui a fait que toi, t'aimes ce film ?
Déjà, je suis passionnée d'extraterrestres, mais celui-là, il était vraiment mignon. Alors je me suis dit, la place d'un truc gore à un truc mignon, ça change.
Et est-ce que, quand tu l'as vu, il y a un truc qui t'a un peu dérangé, un peu freiné ? Est-ce qu'il y a un point négatif ?
Non, il n'y a aucun point négatif.
Donc le film parfait.
Ouais, voilà, pour moi.
Et donc, il est sorti en quelle année exactement ?
Alors, en 1982, Non, 1983.
Et donc, c'est un film qui est dirigé vers un public jeune, mais à quelle tranche d'âge tu le recommandes en général ?
12 ans, plutôt.
Ok, plus jeune, c'est pas possible ?
Ouais, peut-être, je sais pas.
Bon, si vous avez 12 ans, vous pouvez regarder E.T. ce soir. Pour bien commencer le week-end. Merci Tishana pour ta critique de E.T. On passe maintenant à Jade qui va nous parler de Sweeney Todd et non pas Todd avec le merveilleux Johnny Depp dont on va écouter sans doute la merveilleuse voix dans cette bande-annonce.
Voici l'histoire d'un homme ordinaire et comblé.
Barker qui s'appelait Benjamin Barker.
Qu'un homme de pouvoir priva de liberté, arracha sa famille et condamna.
Que le Seigneur prenne votre âme en pitié.
Au bannissement à vie. Et de son désespoir, naquit un homme nouveau.
Depuis 15 ans, je rêve.
de retrouver foyer, femme et enfant.
Benjamin Parker.
Non, Parker n'est plus. C'est Sweeney Todd désormais. Il tient sa vengeance. Où est ma femme?
Elle a disparu. C'est lui qui tient votre fille.
Le juge Turpin.
Il faut oublier toutes ces histoires maintenant.
Non. Quand les temps sont durs, il s'agit d'être aussi dur que...
All right! You, sir!
No one's in the chair. Come on, come on! Sweeney's waiting. I want you, bleeders.
You, sir! To, sir! Welcome to the grave. I will have vengeance.
Donc, Jeanne, pourquoi tu as choisi de nous parler de ce film?
Alors, premièrement, parce que c'est un film que j'ai découvert assez récemment. Et deuxièmement, parce que c'est aujourd'hui mon film préféré. Et que c'est la dernière émission et que je voudrais en profiter pour en parler.
Et surtout pour parler de notre merveilleuse amie Johnny. Parlons un peu de l'histoire, parce que je dois t'avouer que je ne connais pas du tout ce film. Donc, fais-nous un récap global de ce qui se passe dedans.
C'est vrai que c'est un film pas très connu de Tim Burton. Et donc, l'histoire, c'est l'histoire de Benjamin Parker, qui est donc un barbier, et qui menait une existence extrêmement naïve et mielleuse avec sa femme et sa petite fille de 2 mois, quand un juge est soudainement tombé amoureux de sa femme, qui était sacrément belle, je dois l'admettre. Et donc, il décide d'envoyer, avec ses compétences de juge, Benjamin Parker en prison. Et il lui en profite pour voler sa femme et sa fille également. Voilà. Donc, quand Benjamin Parker revient 20 ans plus tard, tout ce qu'il a envie, c'est de se venger et de tuer beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, il va reprendre une échoppe. Et avec l'aide d'une femme qui est folle amoureuse de lui et qui s'appelle Madame Lovett, ils vont faire un magasin de tourtes. Donc, lui, il sera barbier, il tuera des gens. Et ensuite, la viande ira pour les tourtes de Madame Lovett. Que personne ne sache.
Donc c'est du bon Tim Burton.
Oh oui, excellent Tim Burton.
Il est sorti quand précisément?
Il est sorti en 1996. C'est un peu la période de Tim Burton où, comme je l'avais dit déjà pour Dark Shadows, il était assez dans le sombre, assez dans le noir, dans l'obscur. Et ça rejoint aussi sa vision d'aujourd'hui avec Miss Peregrine et les enfants particuliers. Mais c'est la période que je préfère quand il décide de faire un peu des films plutôt dans le gore et le sombre.
Donc, toi, tu es un peu ici la connaisseuse de Tim Burton et de Johnny Depp. Donc, c'est ton film préféré de Tim Burton?
Oui, parce qu'il réunit plusieurs choses que j'aime beaucoup. Il réunit non seulement le fait qu'il y ait de la violence et Johnny Depp. Johnny Depp est un personnage essentiel dans les films de Tim Burton. Mais aussi le fait que ce soit une comédie musicale. Oh mon Dieu. C'est donc très rare.
Une comédie musicale de Tim Burton?
Oui, c'est plutôt rare.
Mais quel navet?
Non. Il a été adapté de la comédie musicale de Stephen Sondheim, qui est un très grand compositeur de musique et qui a d'ailleurs fait la musique du film. Et donc, il a été repris en comédie musicale et les chansons sont excellentes. C'est-à-dire qu'elles ne sont absolument pas dans la niaiserie des comédies musicales mielleuses dans le style Jane Kelly et les Demoiselles de Rochefort. Et c'est des chansons un peu plus dures, un peu plus poussées. Et en fait, moi, si on m'avait dit que c'était une comédie musicale, avant que je le regarde, j'y aurais absolument pas pensé. Parce que c'est vraiment un film dramatique où il y a du sang tout le temps, de la mort, de la tristesse. On a envie de tout le temps d'être avec ce personnage à qui il arrive que des malheurs. Et les chansons, elles sont plutôt joyeuses quand même. Donc j'aime bien.
Donc, mis à part le fait que ce soit une comédie musicale, quels sont les autres points négatifs qu'on peut y retrouver?
Ce n'est pas un point négatif. Alors, il est vrai qu'il y a un excellent point négatif qui est encore une fois, nous avons une fille blonde dans ce film. Voilà,
Jeanne. C'est une très belle... Les gens ne te voient pas, mais...
C'est une très belle femme blonde qui est censée être donc la fille de Benjamin Parker quand elle est grande.
J'ai demandé un point négatif et toi, tu me dis qu'une femme est belle.
Oui, est-ce que sauf qu'elle est absolument inutile voilà, dans ce film. C'est-à-dire que ce personnage est juste là parce que c'est la fille de Benjamin Parker et elle n'est non seulement absolument pas développée dans le film, c'est-à-dire qu'on s'en fout. Genre, elle sert juste d'objet, d'échange, et le personnage n'est absolument pas développé dans le film et c'est extrêmement énervant.
Je crois que Raphaël a quelque chose à nous dire là-dessus.
C'est moi ou tous les films de Tim Burton comportent une blonde inutile?
Oui.
C'est... Ça reprend un peu toujours les mêmes
Sauf
codes.
Sauf Alice au Pays des Merveilles, parce que c'est le personnage principal.
C'est vrai. Non, Yann aussi, tu souhaitais dire quelque chose?
Voilà, mais en fait, l'histoire du film, là, du barbier qui tue des mecs, oui. Qui va voir, qui va donner la viande au boulanger ou à la tourtière, c'est une histoire vraie en fait.
Oui, c'est une histoire vraie. Qui s'est passée à Londres,
ouais.
Il y a longtemps.
Et le film se passe à Londres?
Oui, ah. Il a été tourné en plus à Londres. Donc, les décors sont assez impressionnants. Et je trouve qu'ils ont assez bien remis les décors de l'époque, c'est-à-dire que c'était un Londres dans les années 60, je dirais, un peu plus tard peut-être. Et je trouvais ça vraiment intéressant qu'ils remettent des décors un peu plus vieux. C'est vrai que j'aime beaucoup cette période. Du coup, bah, ça donnait encore plus envie d'être là, en fait. Ils sont plutôt impressionnants. Même s'ils sont toujours dans le même côté sombre, il n'y a pas une seule couleur dans ce film. On a l'impression qu'il est presque en noir et blanc.
Et donc, toi, tu es une fan incontestée de Johnny Depp. Et est-ce qu'il est aussi fabuleux lorsqu'il chante ?
Alors, oui.
Est-ce que tu as regardé le film en version originale ?
J'ai regardé le film en version originale, en version française, en version allemande, en version espagnole et en version néerlandaise. Et
à quoi ça sert ?
C'est très utile de savoir pourquoi non. Ils ont traduit dans d'autres langues, ok ?
En néerlandais.
Oui, en néerlandais. La voix est très drôle.
T'avais pas un vietnamien, t'en venais ?
Non, mais il n'y avait que ça comme langue, sinon j'ai fait les autres.
Mis et à oui, part que le film est aussi génial en néerlandais, oui. Est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter ?
Alors oui, j'ai quelque chose à rajouter. Il faut savoir que je suis une grande fan de littérature aussi et que ce film ressemble beaucoup à un livre très connu d'Alexandre Dumas qui s'appelle Le Comte de Monte Cristo. Et c'est l'histoire d'un homme qui, pareil, se fait prendre sa fiancée et se fait envoyer en prison pour une raison qui n'est absolument pas une bonne raison et qui revient pour se venger et tous les assassiner d'une manière ou d'une autre. Donc là, c'est pas un barbier. Mais je pense qu'il s'est quand même vachement inspiré de ce livre. Et du coup, bah, j'ai fait le lien tout de suite quand je l'ai vu et ça m'a plutôt impressionnée.
Donc, inspiration ou clin d'œil ?
Je pense inspiration, parce que vraiment, l'histoire, c'est presque la même, en fait. Il y a presque des personnages qui sont les mêmes et qui ont le même esprit. Donc je pense que c'est vraiment la même chose.
Ok, bon, bah, merci Jeanne. On va vite enchaîner sur Yann, parce que l'heure tourne. Donc Monsieur Récompense qui va nous parler du récent film La Forme de l'eau. Donc on va écouter la bande-annonce tout de suite.
Si je vous parlais d'elle, la princesse sans voix, que vous dirais-je ?
Eliza, dépêche ! Eliza, viens vite, viens vite !
Elle est sourde ?
Muette, monsieur. Elle vous entend.
Vous nettoyez ce labo, vous sortez.
Il pourrait bien s'agir de l'atout le plus sensible à avoir jamais pénétré dans ce complexe.
Cette chose vous semble peut-être humaine. Ça se tient sur deux jambes, pas vrai ? Mais le Seigneur nous a créés à son image. Vous ne pensez pas que le Seigneur ressemble à ça ?
Cette créature est intelligente, capable de langage. De capter des émotions.
Quand il me regarde, il ignore en quoi je suis incomplète. Il me voit tel que je suis.
J'avoue, je n'ai bavé pas vous, mon amour.
Bande annonce tout aussi intrigante que Yann. Donc Yann, parle-nous un peu de l'histoire de ce film.
C'est Eliza Esposito qui est sourde, qui est muette. Je suis débile moi. Et qui est femme de ménage de jour dans un complexe de la NASA.
Donc la NASA va recruter donc une sorte de monstre venu de la mer, de l'océan.
D'un lac en Amérique du Sud, ou d'une rivière, en Amérique du Sud.
Et donc, tu nous parles de la femme de ménage, donc qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnages ?
Eh ben, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, avec son amie Zelda...
Ok, d'accord.
Eh ben, ils vont aller nettoyer une zone, qui est d'habitude que tu vas pas nettoyer, quoi. C'est pas pour une femme de ménage.
Mm-hmm.
Et ils trouvent, on va dire, des doigts humains qui ont été arrachés. Qui sont en dessous des tables.
Sympa. Quoi.
Voilà. Et ils rencontrent le monstre. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, parce qu'ici, il y a deux, trois gens qui ont fait un syndicat, parce que pendant la répète, j'ai dit zoophile. Les mecs m'ont frappé, ils m'ont fait ces monstrophiles. Hein. Ils ont fait un syndicat. Donc, cet être, et il va avoir une relation entre ces deux-là. Parce que ils sont un peu rejetés de la société, les deux. Un plus le monstre que l'autre, mais ils sont quand même rejetés.
Et donc, il y a une relation un peu étroite qui va s'installer entre les deux personnages.
Alors, ça a commencé par une amitié de besoin. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais...
D'accord, donc la meuf n'a pas d'amis, elle va voir des monstres pour
se... C'est le monstre qui sent le bon bail. Tu vois, il sait, elle va me donner de la bouffe si je suis gentil. Donc, il reste gentil. Au début, c'est juste pour avoir de la nourriture, parce que la NASA, on torture, on électrocute, des trucs comme ça, hein, faut pas croire. Hein. Après, c'est de l'amitié pure, tu vois, c'est pas juste un truc genre, elle me donne des œufs, quoi. C'est...
Ah, ils dansent ensemble.
Ouais, après, ils se mettent à danser ensemble.
Donc, il y a une scène de danse, ok.
Après, il y a... Bon, il y a une scène, on va qualifier de scène érotique.
D'accord, donc c'est 50 nuances de gré, mais avec des monstres qui vivent dans des lacs.
C'est zoophile, quoi. C'est zoophile. Je le dis, j'en ai marre qu'on crée un syndicat.
D'accord.
Non, mais tu vois, voilà, c'est bien ce que je dis, on fait un syndicat. Voilà,
monstrophile. Donc c'est un film qui raconte l'histoire d'une sorte de couple qui se crée entre un monstre qui vit dans des lacs et une femme de ménage.
Oui, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe.
Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que cette femme de ménage fait pour danser avec le monstre qui lui vit dans l'eau?
En fait, ce qu'il fait, c'est que le monstre peut sortir de l'eau. C'est une sorte de grenouille, le monstre.
Ok.
Il faut qu'il reste un certain nombre de temps dans l'eau. C'est une certaine eau salée avec des algues et tout. Il ne peut pas vivre en dehors de l'eau indéfiniment. Mais il peut vivre dans l'eau quelques jours, genre une heure ou deux, tu vois.
Mm-hmm. Et donc, oui, Raphaël?
Non, il peut rester dans l'eau indéfiniment.
Non, dehors, il peut rester une ou deux heures.
Oui, mais il peut rester dans l'eau indéfiniment. T'as dit qu'il pouvait rester deux, trois heures.
Non, dehors.
Oui, ouais. Il parlait à l'extérieur.
Oui, à l'extérieur.
Deux, trois heures à l'extérieur. Donc, pourquoi il danse?
Parce que, comme je l'ai dit, il y a une relation d'amitié qui va devenir une relation amoureuse. Mais ce qui est bien avec ce film, c'est qu'il y a une histoire principale, c'est celle-ci, là, avec... Elisa et le monstre, cet être. Et il y a d'autres histoires parallèles, mais tout aussi importantes. Par exemple, il y a des histoires de racisme.
D'accord, donc ça...
Non, mais c'est pas tout. Calme-toi. Il y a des histoires de... Qu'on appelle ça? Il y a quelqu'un, qu'on nomme le colonel Strickland, qui se trouve supérieur même aux blancs. Tu vois, il est blanc, il se trouve supérieur au noir, mais il se trouve aussi supérieur au blanc. Parce qu'à l'époque, il se passe en 1960, c'était quand même un état plutôt ségrégationniste, les États-Unis, on va dire ça comme ça. Et il y a aussi des histoires entre...
Les États-Unis, c'est pas un état, mais c'est pas grave.
Vas-y. C'est un état, États-Unis.
C'est un pays. Apprends ta géo, s'il te plaît.
C'est la même chose, un état et un pays.
Non, un état, c'est genre le Texas, New York, machin. Ça, c'est un état, ça. Le pays, c'est les États-Unis. Tu sais, comme la France est un pays.
Ok, d'accord. Bon, on va dire un pays. Vous allez plus cassouler. Et donc, voilà, mon coup fait, c'est voilà, très utile. Et voilà, il y a aussi des histoires de pompage, parce que... De pompage.
Pompage.
C'est, tu sais, quand...
Attends, si tu nous parles d'érotisme et de pompage dans les...
Non, pas dans ce sens-là.
Désolée de mal interpréter les choses, mais
bon. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est au sens, par exemple, mon père est proviseur. Et même si j'ai des notes toutes flinguées, je pourrais rentrer dans son lycée.
Ah, d'accord.
Ah, tu veux dire de coup de pouce.
Ah oui, de pistonnage, voilà, c'est ça vraiment.
Voilà.
Et donc, tu es monsieur récompense.
Non.
Donc, tu vas nous faire la petite liste des récompenses qu'a reçu ce film.
Bon, il a été Oscar du meilleur film pour Guillermo del Toro. Meilleur réalisateur, mais Guillermo del Toro encore. Meilleure musique de film. Meilleur décor, elle a été nominée pour meilleur scénario original et pour meilleure actrice secondaire et meilleur acteur secondaire.
Donc j'ai une petite question vis-à-vis de leur relation, c'est comment ils vont faire pour l'entretenir en fait, comment ils vont réussir à continuer à se voir et à pouvoir être amoureux alors que l'un est femme de ménage et l'autre vit dans un lac.
1, 2, 3, spoil. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont ramener le monstre chez la fille, chez Elisa, et vont le mettre dans la salle de bain. Et ils vont, en quelque sorte...
Qui est-ce qui fait ça, la NASA?
Non. La fille. Ils font ça illégalement.
Avec l'aide des Russes.
Oui, mais ça, c'est...
Avec l'aide d'un Russe.
D'un Russe. Parce qu'en fait, c'est un Russe, mais qui est ouvert d'esprit, tu vois.
D'accord.
Il ne faut pas croire qu'il...
C'est rare.
Mais,
ah, d'accord.
Faut pas croire que les communistes, ils sont bloqués. Enfin, hein.
Disons que dans le film, faut oublier, parce qu'il y a toujours... Il y a la tension de guerre froide. Et du coup, les États-Unis pensent que le monstre est une arme... pensent qu'ils vont en faire une arme, et les Russes veulent détruire cette arme pour pas qu'ils aient davantage.
Sauf qu'il y a le docteur Dimitri, qui est quelqu'un de gentil, et qui sait que ce monstre est doué de sentiments.
Doté
de sentiments. Et doué aussi, on peut le dire. Bon. Et doué de sentiments, et tout. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il veut pas le tuer, parce qu'il est gentil. Et donc c'est celui qui va aider Elisa a ramené le monstre
chez elle.
Chez elle.
Et donc ensuite, c'est...
C'est le spoil absolu. C'est, je peux vous spoiler absolument.
Donc, on va s'arrêter là.
Non.
qu'est-ce que tu as trouvé de négatif dans la forme de l'eau?
Ben, ce que j'ai trouvé négatif, c'est vraiment un personnage. Le colonel Strickland. Encore lui. C'est même pas le personnage en soi. Parce que personne l'aime. C'est sa façon de penser, mais pas sur le racisme et tout, sur sa supériorité, c'est sur sa façon de penser.
Donc ça, c'est un personnage de film, c'est pas vraiment le film qui est un point négatif, c'est fait exprès dans le scénario qu'il soit détesté.
Non,
c'est détestable, mais c'est une façon de penser.
Mais c'est un personnage.
Oui, c'est un personnage.
Donc c'est fait exprès.
Non, mais c'est une façon de penser, que c'est peut-être fait exprès, mais je trouve ça très bizarre. C'est, il trouve le monstre inférieur. Ça, je vous l'ai dit, il se trouve supérieur à tout le monde. Sauf qu'à un moment, il s'est fait défoncer, parce que c'est un méchant, quoi. On va pas faire gagner les méchants. Et à la fin, il dit au monstre, j'ai toujours su que t'étais un dieu. Ben non, tu dis pas ça, tu dis, en fait, t'étais un dieu, mais tu dis pas, j'ai toujours su que t'étais un dieu.
Donc t'aurais c'est comme une incohérence.
Mais oui, c'est pas... Il aurait dû dire, en fait, tu étais un dieu, et au lieu de dire, j'ai toujours su que tu étais un dieu.
Ou alors c'est parce que comme le monstre était enfermé, il se pensait supérieur vu qu'il était enfermé, tu vois.
Mais...
Et après, tu vois, genre, il s'est dit, ouais, il est grave chelou quand même. Et après, il fait, ah bah, c'était un dieu. J'ai toujours su que t'étais un dieu.
Ouais, mais c'est quand même bizarre.
Bah, après, c'est vrai que ça reste une incohérence quand même.
Mm-hmm. Voilà.
Donc, merci Yann pour cette petite critique. Donc, c'est la fin de cette émission Clap My sur 91FM+. Donc on vous remercie à toutes et à tous de nous avoir écoutés tout au long de cette année, qui aurait été donc une année qui nous a fait avancer au niveau du Club Radio. On remercie aussi Madame Brett et toute la régie pour ce qu'ils ont fait pour nous. Et on se retrouve donc l'année prochaine pour le retour de Clap My. Merci à tous et bonne journée sur 91FM+.
Avec une nouvelle équipe.